Chant second, la cueillette. Chantez, chantez, Magnanarelle, car la cueillette aime les chants. Beaux sont les vers à soie, et ils s'endorment de leur troisième somme. Les mûriers sont pleins de jeunes filles que le beau temps rend alertes et gaies, telles qu'un essaim de blondes abeilles qui dérobent leur miel aux romarins des champs pierreux. En défeuillant vos rameaux, chantez, chantez, Magnanarelle. Mireille est à la feuille un beau matin de mai. Cette matinée-là, pour Pandeloque, à ses oreilles, la coquette avait pendu deux cerises. Vincent, cette matinée, passa de nouveau. À son bonnet écarlate, comme en ont les riverains des mers latines, il avait gentiment une plume de coq. Et, en foulant les sentiers, il faisait fuir les couleuvres vagabondes, et des sonores tas de pierres, avec son bâton, il chassait les cailloux. « Oh, Vincent !» lui cria Mireille du milieu des vertes allées. « Pourquoi passes-tu si vite ?» Vincent aussitôt se retourna vers la plantation et, sur un mûrier perché, comme une gaie coquillade, il découvrit la fillette et vers elle vola joyeux. « Eh bien, Mireille, vient-elle bien, la feuille ? Et peu à peu, tout rameau se dépouille. Voulez-vous que je vous aide ? Oui !» Pendant qu'elle riait là-haut, en jetant de folâtres cris de joie, Vincent, frappant du pied le trèfle, grimpa sur l'arbre comme un loir. « Mireille, il n'a que vous, le vieux maître Ramon. »« Faites les branches basses, j'atteindrai les cimes, moi, allez !» Et de sa main légère, celle-ci trayant la ramée, « Cela garde d'ennui de travailler avec un peu de compagnie. Seul, il vous vient un nonchaloir, » dit-elle. « Moi de même, ce qui m'irrite, » répondit le gars, « c'est justement cela. Quand nous sommes là-bas, dans notre hutte, où nous n'entendons que le bruissement du rhône impétueux qui mange les graviers, oh, parfois, quelles heures d'ennui ! Pas autant l'été, car d'habitude, nous faisons nos courses l'été, avec mon père, de métairie en métairie. Mais quand le petit houx devient rouge de baie, que les journées se font hivernales et longues les veillées, autour de la braise à demi éteinte, pendant qu'au loquet siffle ou miaule quelques lutins, sans lumière et sans grande parole, il faut attendre le sommeil, moi tout seul avec lui. » La jeune fille lui dit promptement : Mais ta mère, où demeure-t-elle donc ? Elle est morte. Le garçon se tut un petit moment, puis reprit : Quand Vincennette était avec nous, et que, toute jeune, elle gardait encore la cabane, pour Laure, c'était un plaisir. « Mais quoi, Vincent, tu as une sœur ?» Et la jouvencelle, sage qu'elle est et faisant bien les choses, dit le tresseur d'osier. « Trop, car à la fontaine du roi, là-bas, en terre de Beaucaire, elle était allée après les faucheurs, tant leur plus sa gentillesse que pour servante ils l'ont prise, et servante elle y est depuis Laure. « Lui ressembles-tu à ta jeune sœur ?»« Qui, moi ? Qu'il s'en faut ! Elle est blondine, et je suis, vous voyez, brun comme un cusseron. Mais plutôt, savez-vous qui elle rappelle ? Vous ! Vos têtes éveillées, comme des feuilles de myrte, vos chevelures abondantes, on les dirait jumelles. Mais pour serrer la toile claire de votre coiffe, bien mieux qu'elle, Mireille, vous avez le fil. » Elle n'est pas laide non plus, ma sœur, ni endormie. Mais vous, combien êtes-vous plus belle ? » Là, Mireille, à moitié cueillie, laissant aller sa branche. « Oh ! » dit-elle, « ce Vincent ! » !»« Chantez, chantez, Magnanarelle ! Des mûriers, le feuillage est beau, beaux sont les vers à soie, et ils s'endorment de leur troisième somme. Les mûriers sont pleins de jeunes filles que le beau temps rend alertes et gaies, tels qu'un essaim de blondes abeilles qui dérobent leur miel au romarin des champs pierreux.
Ainsi tu me trouves gentille, plus que ta sœur, la fillette dit à Vincent.
Beaucoup plus, répondit-il.
Et qu'ai-je de plus?
Mère divine, et qu'a le chardonneret de plus que le roi Télégrel, sinon la beauté même, et le chant, et la grâce?
Mais encore,
ma pauvre sœur, tu n'auras pas le blanc du poreau. Comme l'eau de mer, Vincennet a les yeux bleus et limpides. Les vôtres sont noirs comme j'ai, et quand sur moi ils étincellent, il me semble que je bois une rasade de vin cuit. De sa voix déliée et claire, lorsqu'elle chantait la péronnelle, ma sœur, j'avais grand plaisir à entendre son doux accord. Mais vous, la moindre petite parole que vous me disiez, ô jouvencelle, plus que nulle chansonnette, enchante mon oreille et trouble mon cœur. Ma sœur, en courant par les pâturages, ma sœur, comme un rameau de date, s'est brûlé le cou et le visage au soleil. Vous, belle, je crois que vous êtes faite comme les fleurs de l'asphodèle, et la main hâlée de l'été n'ose caresser votre front blanc. Comme une libellule de ruisseau, ma sœur est encore grêle. Pauvrette, elle a fait dans un an toute sa croissance. Mais de l'épaule à la hanche, vous, Mireille, il ne vous manque rien.
Laissant de nouveau échapper la branche, Mireille, toute rougissante, dit
« Oh, ce Vincent !»
En défeuillant vos rameaux, chantez, chantez, Magnanarelle. Ainsi les beaux enfants de l'arbre feuillu, cachés sous la ramée, dans l'innocence de leur âge, s'essayaient à l'amour. Les crêtes, cependant, de moins en moins, étaient brumeuses. Là-haut, sur les roches nues, sur les grandes tours écroulées où reviennent la nuit les vieux princes des beaux, les sacres éclatant de blancheur dans l'étendue s'élevaient et leurs grandes ailes étincelaient au soleil qui déjà chauffait les chênes nains.
« Oh, nous n'avons rien fait, quelle honte » dit-elle d'un air de bouderie. « Ce drôle dit qu'il vient m'aider. Tout son travail, ensuite, est de me faire rire. « Allons, sus, dit-elle. Que la main se dégourdisse, parce qu'après ma mère pourrait dire que je suis trop gauche encore, oui, pour me marier. Va, va, dit-elle, toi qui te vantais, mon pauvre ami, si tu te mettais à gage pour cueillir à Quintal la feuille, je crois que, fût-elle toute en brindille, tu pourrais manger des regards d'elle.
Vous me croyez donc une mazette ? Répartit le gars légèrement penaud.
« Eh bien, qui cueillera plus vite, mademoiselle? Nous allons le voir. »
Et courage, des deux mains passionnées, ardents au travail, et de tordre et de traire ramées, plus de paroles, plus de cesse, perd le morceau brebis qui bêle. Le mûrier qui les porte est cueilli tout à l'heure. Ils firent pourtant bientôt halte. Quand on est jeune, la belle chose. Comme dans le même sac, ils mettaient la feuille ensemble, une fois, les jolis doigts effilés de la fillette dans le cerceau se rencontrèrent emmêlés avec les doigts brûlants, les doigts de Vincent. Elle et lui tressaillirent. Leurs joues se colorèrent de la fleur d'amour, et tous deux à la fois d'un feu inconnu sentirent l'échappée ardente. Mais comme celle-ci, avec effroi, sortait sa main de la feuillée, lui, par le trouble encore tout ému, « Qu'avez-vous ? Une guêpe cachée vous aurait-elle piqué ? Dit-il.
Je ne sais,
en baissant le front, répondit-elle à voix basse. Et, sans plus, chacun se met à cueillir de nouveau quelques brindilles. Avec des yeux malins, en dessous, ils s'épillaient pourtant à qui rirait le premier. Leur poitrine battait. La feuille tomba puis de nouveau comme pluie, et puis, venu l'instant où ils la mettaient au sac, la main blanche et la main brune, soit à dessein ou par bonheur, toujours venaient l'une vers l'autre, mêmement qu'au travail ils prenaient grande joie.
Chantez, chantez, Magnanarelle,
en défeuillant vos rameaux.
Vois, vois, tout à coup Mireille crie, vois.
Qu'est-ce ?
le doigt sur la bouche, vive comme une locustelle sur un cep, vis-à-vis de la branche où elle juche, elle indiquait du bras. « Un nid que nous allons avoir !»« Attends !» Et, retenant son souffle haletant, tel qu'un passereau le long des tuiles, Vincent, de branche en branche, a bondi vers le nid. Au fond d'un trou qui, naturellement, entre la dure écorce, s'était formé, par l'ouverture, les petits se voyaient, déjà pourvus de plumes et remuants. Mais Vincent, qui, à la branche tortue, vient de nouer ses jambes vigoureuses, suspendu d'une main dans le tronc caverneux, fouille de l'autre. Un peu plus élevé, Mireille alors la flamme aux joues.
« Qu'est-ce ? » demande-t-elle avec prudence.
« Des pimparins. »
« Comment ? »
« De belles mésanges bleues. »
Mireille éclata de rire.
« Écoute, dit-elle, ne l'as-tu jamais ouï dire ? Lorsqu'on trouve à deux un nid au faîte d'un mûrier ou de tout arbre pareil, l'année ne passe pas qu'ensemble la Sainte Église ne vous unisse. Proverbe, dit mon père, est toujours véridique.
Oui, réplique Vincent, mais il faut ajouter que cet espoir peut se fondre si, avant d'être en cage, s'échappent les petits.
Jésus, mon Dieu, prends garde ! Cria la jeune fille. Et sans retard, serre-les avec soin, car cela nous regarde.
« Ma foi, répond ainsi le jouvenceau, le meilleur endroit pour les serrer serait peut-être votre corsage. »«
Tiens, oui, donne, c'est vrai. »
Le garçon, aussitôt, envoie sa main dans la cavité et sa main qui retourne pleine en tire quatre du creux.
« Bon Dieu !» dit Mireille en tendant la main. « Oh, combien la gentille nichée ! Tiens, tiens, pauvre petit, un bon baiser !»
Et, folle de plaisir, de mille doux baisers, elle les dévore et les caresse, puis, avec amour, doucement les coule sous son corsage qui enfle.
« Tiens, tiens, tends la main !»
de rechef cria Vincent.
« Oh, les jolies ! Leurs têtes bleues ont de petits yeux fins comme des aiguilles !»
Et, vite encore, dans la blanche et lisse prison, elle cache trois mésanges. Et, chaudement, dans le sein de la jeune fille, la petite couvée qui se blottit croit qu'on l'a remise au fond de son nid.
« Mais tout de bon, Vincent, y en a-t-il encore ?»«
Oui. »«
Sainte Vierge, je vois, tout à l'heure, je dirai que tu as la main fée. »«
Eh, bonne fille que vous êtes, les mésanges, quand vient la Saint-Georges, elles font 10, 12 œufs, et même 14, maintes fois. »«
Mais tiens, tiens !» Tends la main, les derniers éclos, et vous, beau creux, adieu.
À peine le jeune homme se décroche, à peine celle-ci arrange les oiseaux, bien délicatement dans son fichu fleuri.
Aïe, aïe, aïe !
D'une voix chatouilleuse, fait soudain la pauvrette. Et, pudique, sur la poitrine, elle se presse les deux mains.
Aïe, 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 je vais mourir ! Oh ! Pleurait-elle, il m'égratigne ! Aïe ! « M'égratigne et me pique. Cours vite, Vincent, vite !»
C'est que, depuis un moment, vous le dirai-je, dans la cachette, grand et vif étaient les mois. Depuis un moment, dans la bande ailée, avaient les derniers éclos mille bouleversements. Et dans les trois vallons, la folâtre multitude, qui ne peut librement se caser, se démenant des griffes et des ailes, faisait dans les ondulations culbute sans pareil, faisait le long des talus mille belles roulades.
Aïe, aïe, viens les quérir, vole !
Lui soupirait-elle. Et comme le pampre que le vent fait frissonner, comme une génisse qui se sent piquée par les frelons, ainsi gémit, bondit et se ploie l'adolescente des micocoules. Lui pourtant a volé vers elle. Chantez en défeuillant vos rameaux,
chantez, chantez, ma nianarelle.
Sur la branche où elle pleure, lui pourtant a volé.
Vous le craignez donc bien, le chatouillement ?
Lui dit-il de sa bouche amie.
Et comme moi dans les orties, si nu-pied, maintes fois il vous fallait vaguer, comment feriez-vous ?
Et pour déposer les oisillons qu'elle a dans son corsage, il lui offre en riant son bonnet de marin. Déjà Mireille, sous l'étoffe, que la nichée rendait bouffante, envoie la main et, dans la coiffe, déjà, une à une, rapporte les mésanges. Déjà le front baissé, pauvrette, et détourné un peu de côté, déjà le sourire se mêlait à ses larmes, semblablement à la rosée qui, le matin, des liserons mouillent les clochettes molles et roulent en perles et s'évaporent aux premières clartés. Et sous eux, voilà que la branche, tout à coup, éclate et se rompt. Au cou du vanier, la jeune fille, effrayée, avec un cri perçant, se précipite et enlace ses bras. Et du grand arbre qui se déchire, en une rapide virevolte, il tombe, serré comme deux jumeaux, sur la soupe ivrée. Fraise et fir, vent largue et vent grec, qui des bois remuait le dé, sur le jeune couple que votre gai murmure, un petit moment mollisse et se taise. Folle brise, respirez doucement, donnez le temps qu'on rêve, le temps qu'à tout le moins il rêve le bonheur. Toi qui gazouilles dans ton lit, va lentement, petit ruisseau, parmi tes galets sonores, ne fais pas tant de bruit. Pas tant de bruit, car leurs deux âmes sont dans le même rayon de feu, parties comme une ruche qui essaime. Laissez-les se perdre dans les airs pleins d'étoiles. Mais elle, au bout d'un moment, se délivra de l'embrassade. Moins pâles sont les fleurs du cognassier. Puis ils s'assirent sur le talus, l'un près de l'autre se mirent, un petit moment se regardèrent, et voici comment parla le jeune homme au panier. « Vous êtes-vous point fait de mal, Mireille ? Ô honte de l'allée, arbre du diable, arbre funeste qu'on a planté un vendredi, que le marasme s'empare de toi, que l'artisan te dévore et que ton maître te prenne en horreur !» Mais elle, avec un tremblement qu'elle ne peut arrêter, « Je ne me suis pas, dit-elle, fait de mal, nenni. » Mais, tel qu'un enfant dans ses langes, qui parfois pleure et ne sait pourquoi, « J'ai quelque chose, dit-elle, qui me tourmente. Cela m'ôte le voir et l'ouïr. Mon cœur en boue, mon front en rêve, et le sang de mon corps ne peut rester calme. » « Peut-être, dit le vanier, est-ce la peur que votre mère ne vous gronde pour avoir mis trop de temps à la feuille ? Comme moi, quand je m'en venais à heure indue, déchiré, barbouillé comme un mort, pour être allé chercher des mûres. « Oh non ! Dit Mireille, aucune peine me tient. » « Ou peut-être un coup de soleil, dit Vincent, vous a enivré ?»« Je sais, dit-il, une vieille dans les montagnes des Beaux, on l'appelle Tavenne, elle vous applique, bien sur le front, un verre plein d'eau, et promptement, de la cervelle ivre, les rayons charmés jaillissent dans le cristal. « Non, non, répondit la fille de Croc. Les échappées du soleil de mai, ce n'est pas aux filles de Croc qu'elles peuvent faire peur. Mais à quoi bon t'abuser? Mon sein ne peut plus le contenir. Vincent, Vincent, veux-tu le savoir? Je t'aime. » Au bord du ruisseau, et l'air limpide, et le gazon, et les vieux saules taillis, furent clairement émerveillés de plaisir. Ah, princesse, que si jolie, vous ayez la langue si méchante, le vanier s'écrie à l'instant. Il y a de quoi se jeter par terre, stupéfait. Quoi, vous, amoureuse de moi? De ma pauvre vie encore heureuse? N'allez pas vous jouer, Mireille, au nom de Dieu. Ne me faites pas croire des choses qui, là-dedans, une fois enfermées, seraient ensuite la cause de ma mort. Mireille, de cette sorte, ne vous moquez plus de moi. Que Dieu jamais ne m'en paradise si les mensonges en mes paroles. Va, croire que je t'aime, cela ne fait pas mourir, Vincent. Mais si, par cruauté, tu ne veux pas de moi pour amante, ce sera moi, malade de tristesse, ce sera moi qu'à tes pieds tu verras se consumer. Oh, ne dites plus des choses pareilles, de vous à moi il y a un labyrinthe, l'enfant de maître Ambroise fit en balbutiant. Dumas et Micocoule, vous êtes, vous, la reine devant qui tout plie. Moi, vanier de Valabrègue, je ne suis qu'un vaurien, Mireille, un batteur de campagne.
Eh, que m'importe que mon bien-aimé soit un baron ou un vanier, pourvu qu'il me plaise à moi, répondit-elle vite, et tout en feu comme une lieuse de gerbe. Mais si tu ne veux que la langueur mine mon sang dans tes haillons, pourquoi donc, ô Vincent, m'apparais-tu si beau ?
Devant la Vierge ravissante lui resta interdit, comme des nues un oiseau fasciné qui tombe peu à peu.
« Tu es donc magicienne, dit-il ensuite brusquement, pour que ta vue me dompte ainsi, pour que ta voix me monte à la tête et me rende insensée comme un homme pris de vin ? Ne vois-tu pas que ton embrassement a mis le feu dans mes pensées ? Car, tiens, si tu veux le savoir, au risque que de moi, pauvre porteur de falourde, tu ne veuilles faire que ta risée, je t'aime aussi, je t'aime, Mireille, je t'aime de tant d'amour que je te dévorerai. Je t'aime au point que si tes lèvres disaient « Je veux la chèvre d'or, la chèvre que nul mortel ne paie ni de trait, qui, sous le roc de beaux manières, lèche la mousse des rochers, où je me perdrai dans les carrières, où tu me verrais ramener la chèvre au poil roux. Je t'aime, ô jeune fille enchanteresse, au point que si tu disais « Je veux une étoile », il n'est traversé de mer, ni bois, ni torrent fou. Il n'est ni bourreau, ni feu, ni fer qui m'arrêta. Au bout des pics, touchant le ciel, j'irai la prendre, et dimanche tu l'aurais appendue à ton cou. Mais, ô la plus belle, plus je te contemple, plus, hélas, je m'éblouis. Je vis un figuier, une fois dans mon chemin, cramponné à la roche nue, contre la grotte de Vaucluse, si maigre, hélas, qu'au lézard gris donnerait plus d'ombre une touffe de jasmin. Vers ses racines, une fois par an, vient clapoter l'onde voisine, et l'arbuste aride à l'abondante fontaine qui monte à lui pour le désaltérer autant qu'il veut se met à boire. Cela toute l'année lui suffit pour vivre. Comme la pierre à la bague, à moi cela s'applique. Car je suis, Mireille, le figuier, et toi la fontaine et la fraîcheur. Et plût au ciel, moi pauvre, plût au ciel, une fois l'an, que je puisse, à genoux comme à présent, me soleiller aux rayons de ton visage, et surtout que je puisse encore t'effleurer les doigts d'un baiser tremblant. » Mireille, palpitante d'amour, l'écoutait. Mais lui la prend éperdue. Contre sa poitrine forte, la mène éperdue.
« Mireille !»
Ainsi, tout à coup, dans l'allée, résonna une voix de vieille femme.
« Les verres à soie, à midi, ne mangeront donc rien ?»
Dans un pain, en grande animation, une volée de passereaux qui s'ébat remplit quelquefois d'un gai ramage la soirée qui fraîchit. Mais d'un glaneur qui les guette, si tout d'un coup tombe la pierre, de toutes parts, effrayé, il s'enfuit dans le bois. Troublé d'émoi, ainsi fuit par la lande le couple amoureux. Elle, de vers le mas, sans dire un mot, part à la hâte, sa feuillée sur la tête. Lui, immobile comme un songe fait, la regarde courir au loin dans la friche.